France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, un siècle de chansons enfantines d'auteurs, deuxième partie. En cette période de fête, où les enfants sont au centre des réunions familiales, Tour de Chant refait un détour du côté des chansons qui leur sont dédiées. L'an passé, nous avons exploré le répertoire des comptines, ces chansons traditionnelles dont l'origine remonte au moins au XIXe siècle. Cette année, nous abordons les chansons d'auteurs, voire d'interprètes plus ou moins spécialisés dans le genre. Car la chanson pour enfants est un domaine en soi de la production musicale, et ce depuis plus d'un siècle. Pour nous aider à explorer ce monde, je reçois aujourd'hui encore Gilles Hannet, professeur d'économie et de gestion en BTS à l'Éducation nationale, et par ailleurs passionné de chansons, en particulier le répertoire pour enfants, des génériques d'émissions télévisées, du doublage des dessins animés et des comédies musicales. Bonjour Gilles.
Bonjour Martin.
Et bonne année à vous.
Bonne année 2026.
Après le thème de la famille, après celui des jouets de Noël, nous allons aborder aujourd'hui ceux de la maison et de l'école, puisque dans quelques jours, ce sera déjà la rentrée des classes.
Hélas.
Hélas, pour toutes nos chères têtes blondes. Et pour commencer, je voudrais rendre hommage à Anne Sylvestre, qui nous a quittés il y a 5 ans. Son œuvre, qui couvre les années 60 jusqu'aux années 2010, comporte 300 chansons remarquables, mais aussi 300 fabulettes destinées aux enfants de 3 générations successives. J'ai choisi pour démarrer cette émission la chanson qui a bercé ma propre enfance et qui date de 1974, joliment orchestrée par François Robert.
J'ai une maison pleine de fenêtres en large et en long, et des portes aussi, faut le reconnaître, et des portes aussi, il faut bien sortir. J'ai une maison pleine de fenêtres en large et en long, et un escalier qui grimpe, et un escalier qui fait mal aux pieds. J'ai une maison pleine de fenêtres en large et en long, et un ascenseur qui est toujours en panne, et un ascenseur qui fait mal au cœur. J'ai une maison pleine de fenêtres en large et en long, et des habitants qui grognent, et des habitants qui n'ont pas le temps. J'ai une maison pleine de fenêtres en large et en long, et puis moi ça va, je saute, et puis moi ça va, je ne m'en fais pas. J'ai une maison pleine de fenêtres en large et en long.
Une des 300 fabulettes de Anne Sylvestre, enregistrée en 1974. Alors je disais que moi cette chanson m'a beaucoup marqué, mais Gilles Hannet, vous, c'est d'autres fabulettes qui vous ont marqué.
Moi je suis né un tout petit peu avant vous, donc j'ai connu le premier 45 tours des fabulettes paru chez Philips. Et moi mes chansons d'enfance c'était Hérisson sonne vêpres, Hérisson don, Hérisson en large en long. Et surtout l'incontournable, veux-tu monter dans mon bateau? Mais un petit peu plus tard, par exemple, mon petit frère... lui, c'était dans ma fusée. Et quand on interroge les gens sur quelle est leur chanson préférée d'Anne Sylvestre, tout dépend de la date à laquelle ils sont nés. Mais il y a toujours une chanson de référence.
Et voilà, ça c'est quand même le privilège et l'apanage d'une œuvre aussi riche qui couvre des décennies, d'avoir finalement touché toutes les générations.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute la chanson d'Anne Sylvestre, en fait, moi je vois un dessin d'enfant avec l'immeuble avec plein de fenêtres, et puis par transparence, l'escalier, l'ascenseur. Et ce que j'aime bien, c'est que ça parle à tous les enfants, parce que les enfants auxquels s'adressait Anne Sylvestre, ils n'habitaient pas tous des pavillons, ils habitaient des immeubles en centre-ville ou en banlieue. Et ça, je trouve que c'est le pouvoir universel de la chanson d'Anne Sylvestre.
Alors, c'est vrai que le thème de la maison est peu présent dans les chansons enfantines, mais on trouve tout de même quelques autres œuvres, notamment par le biais des jouets. On y revient toujours. Et Gilles, vous vouliez nous faire entendre une de vos chanteuses préférées, Lisette Jambel. Alors, vous allez d'abord nous expliquer pourquoi c'est votre chanteuse préférée, parce qu'on y revient souvent.
Alors, moi, ce que j'aime chez Lisette Jambel, c'est sa voix acidulée, sa qualité d'interprétation, parce que je trouve qu'elle met toujours une intention derrière ses chansons. Et ce que je reproche un petit peu aujourd'hui aux plateformes, c'est qu'on n'entend pas Lisette Jambel et c'est très difficile de trouver des disques d'elle. Et par exemple, là, je vous ai apporté une pépite, c'est un 25 cm qui est paru chez Trianon, à l'intérieur duquel il y a deux de mes chansons préférées. Et l'une d'entre elles, c'est Le Petit Train Électrique. Et vous allez voir que et l'orchestration et l'interprétation de Lisette Jambel, on a l'impression d'être dans ce petit jouet et de parcourir le salon, l'appartement dans lequel évolue le petit train.
Le petit train électrique tourne sagement en rond avec un bruit métallique sur le tapis du salon. On le voit franchir sans hâte le viaduc en mécano, le tunnel en carton-pâte et le passage à niveau. Le petit train électrique accomplit tranquillement sur ses deux rails symétriques un voyage d'agrément. Le petit train électrique, lassé de tourner en rond, fait le projet romantique de voir d'autres horizons. Alors la locomotive part vers de nouveaux décors et tous ses wagons la suivent jusque dans le corridor. Le petit train électrique accomplit tranquillement sur ses deux rails symétriques un voyage d'agrément. Le petit train qui trottine à travers l'appartement est entré dans la cuisine et s'y promène un moment. Il part à la découverte et trouve sur son chemin une porte grande ouverte qui donne sur le jardin. Le petit train électrique accomplit tranquillement sur ses deux rails symétriques un voyage d'agrément. Le petit train excursionne à travers le grand jardin, tout ce qu'il voit le passionne, il s'en va toujours plus loin, puis il franchit la clôture, il est libre désormais de partir à l'aventure, le reverra-t-on jamais. Le petit train électrique s'éloigne tranquillement sur ses deux rails symétriques, il est parti pour longtemps.
Lisette Jambel, c'était vers 1960, un disque assez rare finalement, puisqu'il n'a jamais été réédité.
Et il n'existe qu'en 25 cm, même pas en 45 tours. Alors ce que j'aime dans l'orchestration, c'est les battements qu'on entend à la fin, qui évoquent le chouchou du petit train. Les enfants d'aujourd'hui, ça ne leur évoque rien, puisque les TGV ne font pas de chouchou. Et malgré tout, cette onomatopée,
elle est restée.
Elle est restée. Et la preuve, c'est que même Dorothée, quand elle a enregistré dans les années 80 sa version, sa chanson de petit train, puisque c'est un thème assez récurrent dans la chanson pour enfants, eh ben ça s'est appelé Chouchou le petit train. Donc le chouchou reste.
Ce thème des petits trains a inspiré d'autres chansons, notamment un succès créé par André Claveau en 1952, signé Marc Fontenoy, qui s'appelle précisément Le Petit Train. Ce qu'on a entendu là dans cette chanson, c'est que le petit train électrique, c'est une métaphore pour traverser toutes les pièces de la maison.
Et voilà, et puis surtout qu'à la fin, il prend sa liberté et il s'en va. Alors moi, ça m'inquiétait parce que je me disais quand j'étais enfant, mais peut-être qu'un jour, mes jouets vont partir aussi. Et j'aime bien cette idée que les jouets ont leur vie propre. Ça rappelle un petit peu la chanson qu'on a écoutée la semaine dernière, La Révolte des Joujoux.
Alors, puisque vous aimez Lisette Jambel, vous savez qu'elle a enregistré en 1949 L'horloge de grand-mère. Là, ça permet d'évoquer les meubles de la maison. Et d'ailleurs, ce titre n'a rien à voir avec celui homonyme de 1937, tiré des chansons de Bob et Bobette que nous avons entendues la semaine passée. Cette fois, il s'agit d'une histoire initiatique qui, en quelque sorte, permet de se préparer à la disparition de ses grands-parents. Elle a aussi été enregistrée en 1950 par Guy Séverins, et c'est cette version que vous avez choisie.
L'horloge de grand-mère monte depuis longtemps. L'horloge de grand-mère compte le remplie de malice, elle se souvient très bien. Elle fit en 70 un pied né aux Prussiens. Puis c'est le temps des valses, vint un monsieur très bien. L'amour avait pris place, tandis que dans son coin, l'horloge de grand-mère comptait gaiement. L'horloge de grand-mère comptait le temps. Les années ont passé, le coucou s'est enroué, la grande aiguille est un peu folle, et le vieux balancier ne veut plus se presser pour compter le temps qui s'envole. S'il est 3h30 quand elle sonne midi, si elle perd un peu la boussole, ne soyez pas méchants, elle n'a plus ses 20 ans. L'horloge de grand-mère compte depuis longtemps. L'horloge de grand-mère compte le temps. Il reste dans la chambre la vieille grand-maman, qui voit venir décembre tout doucement. Et puis, un soir d'automne, grand-mère s'en est allée, le tic-tac monotone bientôt s'est arrêté. L'horloge de grand-mère est morte en même temps. L'horloge de grand-mère ne compte plus le temps.
Curieuse chanson, Gilles Annet.
Ah, c'est une chanson qui est une véritable allégorie sur le temps qui passe et puis qui aide les enfants à se préparer finalement au départ des grands-parents. L'horloge, elle est incarnée, c'est presque un personnage vivant puisqu'elle a des yeux comme la grand-mère. Et puis l'horloge, quand on est petit, c'est un objet un peu mystérieux, très démesuré, avec ce balancier un peu hypnotique. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle avait un coucou, et on guettait la sortie du coucou aussi qui sortait. C'est vraiment des objets magiques.
On pourrait essayer de continuer à explorer la maison, mais finalement, elle n'est pas tellement représentée dans la chanson. En revanche, il y a un thème parmi les chansons enfantines extrêmement développé, c'est celui de l'école. Et après cette période de fête, il faut se préparer à la rentrée des classes. Alors donc, nous allons explorer la thématique de l'école dans les chansons d'auteur. Et là, on a des chansons qui occupent une place centrale, hein, quand même, dans le répertoire des chansons d'auteur.
Ben c'est normal, puisqu'en fait, les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école avec les enseignants qu'avec leurs propres parents, finalement, sur une semaine. Et donc, c'est normal que dans la chanson pour enfants, l'école ait cette place importante.
Et en particulier la question de l'apprentissage, qui a inspiré diverses initiatives assez heureuses au cours du XXe siècle. Et j'ai envie de commencer avec une sorte d'ovni musical, les chansons du Monsieur Bleu, cycle de chansons enfantines de Manuel Rosenthal, sur des poèmes de Nino, qui a été créé en février 1934 par la grande fantaisiste Marie Dubas. Alors, rappelez que Marie Dubas était la grande vedette de music-hall comme Bobino et qu'elle a accompli le prodige d'être pour un soir la chanteuse soliste des concerts Pas de Loup au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction du compositeur de ses mélodies, Manuel Rosenthal. Et l'accueil a été si enthousiaste qu'elle les a enregistrés dans la foulée chez Columbia. Le cycle du Monsieur Bleu comporte 12 mélodies, Marie Dubas en a chanté 9 et a enregistré 5. Et parmi ces 5, 2 concernent l'école, arithmétique et grammaire.
Arithmétique. 4 et 3, 7 et 3, 10 et 3, 13. 5 et 5, 10 et 5, 15 et 5, 20. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16. 4 fois 2, 8, 3 fois 7, 21. Si maman me donne pour mon mal de gorge 10 boules de gomme et 10 sucres d'orge, sans hésitation, je fais l'opération. Mais il faut soustraire 10 bonbons pour le rue.
mère. L'adjectif qualificatif est un mot qui nous fait connaître un défaut, une qualité, une façon d'être ou d'avoir été. Exemple, ma tante est un gros, mon oncle est un vrai, mon frère est marteau, tout le monde est cinglé. Mais la faiblesse de ma mère ne se qualifie guère, et la matière d'être de papa ne se qualifie pas. L'adjectif qualificatif est un mot qui nous fait connaître un défaut, une qualité, et la façon de.
Voilà, c'est pas facile à chanter, hein, surtout pour une artiste qui d'habitude faisait du musical, mais elle s'y est collée avec brio. Et donc voilà, c'est un petit hommage à Marie Dubas. Et pour rester dans le registre poétique, j'ai envie de passer aux chansons de Prévert et Cosma, qui datent des années 40. Certaines ont été créées pendant la guerre par Germaine Montero, puis ce sera au tour de Cora Vauquer, d'Yves Montand bien sûr, et des frères Jacques. L'univers de Prévert, vu par le prisme de l'enfance, est très riche, vous le savez Gilles.
Oui, puis alors ce qui est amusant, moi ce que j'avais appris à l'école, c'était page d'écriture. Je l'avais appris en poème, pas en chanson. Et cette litanie de 4 et 4 en 8, 8 font 16, on retrouve ça dans Marie Dubas. Et ça symbolise un petit peu l'ennui qui vous gagne sur les bancs de l'école. Et j'aimais bien cette idée que d'un seul coup, l'oiseau lyre interrompe finalement cette leçon de calcul. Et ça éveillait l'imagination. Et ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, cette chanson qui dénonce un peu l'ennui à l'école, c'est celle qu'on fait apprendre quasiment en premier aux enfants. C'est paradoxal.
Oui, c'est tout à fait paradoxal et elle a beaucoup plu puisqu'elle a été enregistrée par vraiment un grand nombre d'interprètes. Et j'en ai choisi un qui est un peu plus de registre lyrique. Il s'agit de Jean-Christophe Benoît en 1991.
Huit et huit font 16, répétait-il le maître. Deux et deux, quatre, quatre et quatre, huit, et huit font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, l'oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. Deux et deux, quatre, répétait-il le maître. Mais l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8, et 8 font 16. Les 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, 16 et 16, et surtout pas 32 de toute façon. Et ils s'en vont, et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre, et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent la musique. Et huit à leur tour s'en vont. Et quatre et deux à leur tour fichent le camp. Et un ne font ni une ni deux. Un à un s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue, et l'enfant chante, et le professeur crie quand vous aurez fini de faire le pitre. Mais tous les autres enfants écoutent la musique, et les murs de la classe s'écroulent tranquillement, et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupilles deviennent arbres, la crème devient falaise, le porte-plume redevient oiseau.
Voilà, cette fameuse page d'écriture de Jacques Prévert et Joseph Cosma, qui fait partie d'un cycle beaucoup plus important de chansons qu'on connaît finalement de façon très familière, tellement elles ont été enregistrées. Et vous-même, Gilles Hannet, vous avez appris, je crois, cette poésie, page d'écriture de Très Bonheur.
Oui, moi je l'ai apprise en CM2, et c'est pour ça que je m'en rappelais encore très bien. Mais on apprenait aussi des poèmes de Robert Desnos, par exemple La fourmi de 18 mètres, je l'ai aussi apprise à l'école.
Et oui, c'est vrai qu'il y a des poètes du XXe siècle qui ont beaucoup été transmis comme ça dans les manuels scolaires.
Oui, je crois que les instituteurs aimaient bien ces beaux textes et voulaient nous sensibiliser à une poésie qui était plus contemporaine que celle que Jean de La Fontaine, par exemple, qu'on apprend à l'école, mais qui a aussi été mis en musique à destination des enfants.
Alors, à partir du milieu des années 50, avec l'essor du disque micro-sillon, on assiste à l'apparition d'objets vraiment spécifiquement destinés aux enfants et à leur apprentissage. J'ai presque envie de dire, pour favoriser leur apprentissage à l'école primaire en particulier, la lecture, bien sûr, en priorité, mais aussi le calcul et même l'histoire.
Oui, il y a toutes sortes d'enregistrements différents, soit pour apprendre donc l'alphabet, les règles d'orthographe. Alors moi, ça m'amuse parce que j'ai assisté à une formation il n'y a pas très longtemps où on nous montrait qu'avec une application de l'intelligence artificielle, on pouvait mettre des formules mathématiques qu'on a du mal à faire apprendre aux élèves en musique. Et sur les rythmes qu'on choisissait, ça pouvait être du rap, du ragamuffin, tout ce qu'on voulait. Et on nous incitait donc à utiliser ce moyen-là pour pouvoir leur faire apprendre. Alors, je vais y réfléchir parce que moi, mes élèves, au bout de 2 ans, ils n'arrivent toujours pas à passer du prix de vente TTC au prix de vente hors taxe. Donc, je pense qu'il y a une piste à explorer là.
Bon. Alors, en tout cas, on va donc faire un petit panorama de ces enregistrements destinés à l'apprentissage des enfants, en commençant dans les années 50 avec Boris Vian, qui s'est amusé à écrire un abécédaire musical sur des airs de comptines. Alors, cet abécédaire a été enregistré à l'époque par Lucienne Vernet et les 4 Barbus, et il sera repris bien plus tard, en 2011, par le groupe Debout sur le Zinc, qui a composé de nouvelles musiques. Vous vouliez préciser quelque chose, Gilles, je crois, sur les musiques qu'on va entendre?
Alors, ce qui était amusant, c'est que la plupart des musiques qui avaient été choisies pour l'enregistrement original qui était paru chez Philips, c'était donc des chansons de comptines traditionnelles ou des chansons du début du XXe ou du XIXe siècle. Et je suis curieux d'entendre celle de Debout sur le Zinc, parce que du coup, c'est une toute nouvelle version que vous nous proposez là.
Et alors, notre réalisateur Noé Mignard nous a concocté un montage qui entremêle habilement sur 3 lettres les versions d'origine et celles du groupe.
Oh! Comme?
Anatole!
France Musique, Tour de Chant, Martin Penney.
Anatole avait un âne.
Anatole avait un âne.
Qui aimait les ananas.
Qui aimait les ananas.
Les abricots.
Les abricots.
Les artichauts.
Les artichauts. Et tout ce qui commençait par A. Anatole, quel drôle de cas, ha, ha, ha.
B, comme Blatt?
Oh non!
Comme Berthe alors?
Berthe met ses bas et son bonnet brodé, se balade au bal pour danser la bourrée. Berthe est belle et blonde, elle aime le beau Bastien qui a des bottes, bottes, bottes et qui bondit si bien.
Yéhouhouhouhou!
C'est... comme Célestin.
Célestin cache des carottes dans les champs de choux, la cousine Charlotte. Célestin change de chapeau car il est coquet comme un coquelicot.
Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans l'album original enregistré par Lucienne Vernet et les 4 Barbus, les textes étaient reproduits et la lettre qui était mise en avant était mise en gras pour qu'on puisse la repérer. Donc il y avait vraiment une vertu éducative à avoir le disque. Il ne fallait pas simplement l'écouter, il fallait aussi le voir pour le lire. Et donc c'était un véritable outil d'apprentissage à la lecture.
Mais c'est exactement ce qu'on retrouve en 1960 lorsque la chanteuse d'opérette Janice Silver enregistre une méthode de lecture écrite par Marguerite Thiebold, auteur d'ouvrages pour la jeunesse, et composée par le célèbre clarinettiste et chef d'orchestre Hubert Rostin. Et alors là, je crois que c'est quelque chose que je vais vous faire découvrir.
Oui, oui. Moi, je connais Hubert Rostin parce qu'il a été le compagnon de Paulette Rollin et qu'il a orchestré quelques musiques pour les Discades. Mais alors là, je connais aussi Janice Silver, mais ce titre-là, je ne le connais absolument pas.
Ah, et pour l'Atlas, pour connaître l'Amérique, l'immense océan Atlantique, le Canada et les Pampas. B est pour balle et ballon, pour boule et joueront, qui roulent dans les jardins, courez rattraper les bambins. Et pour le clown Colbert, si fier de son chapeau vert, de sa cravate à pois, des clous de sa chaussure et de ses cheveux roux. Pour le diablotin, Dédé, dansant ce dandinon, montrant ses dents. Pour le domino et pour le dé. A, B, C, D, et la page est tournée.
Alors, belle découverte, Gilles Année.
Oui, on retrouve tout à fait l'esprit de l'album précédent, en fait, cette façon d'égrener les lettres et de replacer des mots dans l'intérieur desquels on les retrouve. C'est amusant d'ailleurs que ça, c'est presque à l'identique, simplement les musiques changent.
Alors, est-ce que ce sera le cas l'année suivante, en 61, lorsque la chanteuse Paulette Rollin grave chez Barclay un projet sur l'orthographe en chanson, mis en vers par Claude Ami? Et alors, pour varier les descriptions des règles du français, cette fois, c'est le compositeur François Charpin qui utilise différents rythmes de danse alors en vogue, comme le mambo, la tarentelle, le rock, la polka, la marche, le cha-cha, le fox et la conga. Et ça donne donc un disque 33 tours 25 cm avec un copieux livret illustré où là encore, chaque chanson est détaillée avec des commentaires orthographiques. Donc la chanteuse Paulette Rollin est accompagnée par les choristes et l'orchestre dirigé par Jean Bouchetti.
Tous les noms féminins terminés par le son I.
On peut mettre la pluie et la pépille, un nœud derrière le I.
Cependant la brebis prend un S comme la souris.
La perdrix, un X et la fourmi, un I. Par un T finit la nuit.
Tous les noms féminins terminés par le son U.
On comme la grue, la rue et la morue, un nœud derrière le U. Sauf la bru, sauf la glu, une tribu et la vertu. Car ces quatre noms, la chose est bien connue, se terminent par un nu.
Oh là là, arrêtez-vous là.
Moi qui ai la tête grosse comme un petit pois.
Oh là là, arrêtez-vous là.
Je ne pourrai jamais retenir tout ça.
Les noms féminins terminés par le son OU.
On comme la roue, la joue et la bajou, un nœud derrière le OU.
Sauf la toux, oui la toux, toute coqueluche ou branchue.
Que l'on tousse seul ou que l'on tousse assise, la toux prend toujours un X.
Tous les noms féminins terminés par le son E
s'écrivent à l'encre tout comme à la craie, A, I, E s'il vous plaît. Excepté la forêt, accent circonflexe T. Excepté la paix avec un X, celle qui termine les rix.
Oh là là, apprendre tout ça.
J'ai mal à la tête, vous n'y pensez pas.
Oh là là, à que de tracas.
Moi je me plaindrai tout à l'heure à papa.
Tous les noms féminins terminés par le son E.
On comme la fée, la lée, la zalée, un nœud derrière le E.
Sauf la clé, C-L-E, ou la clé, C-L-E-E.
Sauf aussi les noms féminins terminés par l'un des sons T ou Tier.
Car les noms féminins terminés par T ou Tier
ne prennent pas de derrière le E, excepté la dictée, la montée, la pâtée, la portée, l'acheter, la tétée, et les noms désignant comme l'assiété le contenu d'un objet.
Oh là là, vous ne voyez donc pas.
Ma tête enfle comme un ventre de Bouddha.
Oh là là, continuez comme ça.
Et bientôt ma pauvre tête éclatera.
Tous les noms masculins terminés par le son L.
Ou par le son aïe ou aïe ou le son aïe se termine par un L.
Mais on est deux ailes au vermicelle.
Au rebelle, au violoncelle, au chèvrefeuille, deux ailes au portefeuille.
Tous les noms féminins terminés.
même qu'on met EU à la queue, s'écrivent EUE. Il n'y a pas d'exception, a dire le petit Léon. Si les règles n'avaient jamais d'exception, en dictée je serais champion.
Oh là là, il a bien raison.
À bord l'orthographe et vive le petit Léon.
Oh là là, il a bien raison.
Vive la gymnastique et la récréation.
Et voilà, Paulette Rollin, qui est également une chanteuse que vous aimez beaucoup, je crois, Gilles Annet.
Oui, parce qu'elle a prêté sa voix à Cendrillon dans le premier enregistrement de 1950, et puis qu'elle a aussi beaucoup enregistré de comptines pour enfants, d'abord chez Mercury, après chez Barclay, des berceuses, des chansons de Noël. Donc elle est vraiment imprégnée de toute cette culture enfantine que j'affectionne particulièrement.
Alors on va continuer l'exploration des disques d'apprentissage, si on peut les appeler comme ça, car en 1966, la maison de disques CBS sort un disque concept assez original sur l'histoire de France. Et c'est Pierrette Bruno, avec la chorale des Rouges-Gorges, qui chante et raconte une histoire très dans le vent, enfin Dixit, la pochette du disque, orchestrée par Armand Midjani. Et suivant le programme officiel des manuels scolaires, elle passe en revue les étapes consacrées du panorama de nos ancêtres, de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Et voilà ce que ça donne.
Oui, oui, les enfants, voulez-vous venir vous promener avec moi ?
Oui, oui, oui.
On va se promener à travers l'histoire.
L'histoire ? Quelle histoire ? Celle du petit poussé ?
Non, l'histoire de France. On y va ?
Oui.
Bon, alors en route pour la Gaule, car vous savez que l'histoire de France commence avec...
Les Gaulois !
Il y a longtemps de ça... La France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois, il y a longtemps de ça. La France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois.
Ils avaient des moustaches en guidon de vélo, des yeux bleus et un casque en guise de chapeau. Ils vivaient sous des tentes, dans des huttes ombragées, et ils passaient sans doute tous leurs congés payés.
Il y a longtemps de ça. La France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois, il y a longtemps de ça. La France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois.
Avec de grandes haches, faites un morceau de roc, ils pourchassaient des vaches qu'ils appelaient au roc. N'ayant pas à l'époque de bureau de tabac, ils fumaient des gauloises, mais ne le savaient pas.
Il y a longtemps de ça. La France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois, il y a longtemps de ça. La France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois.
Quelle vie de cocagne, en s'étant reculé, ce sacré Charlemagne n'était pas encore né. Vous parlez de vacances, pas d'école, pas d'ennui, il n'y avait que des dimanches, avec quelques jolis.
Il y a longtemps de ça. La France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois, il y a longtemps de ça. La France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois,
oui c'est bien ça,
oui c'est bien ça.
Et c'est pourquoi,
et c'est pourquoi,
le grand-papa du grand-papa, au grand-papa du grand-papa,
c'était un Gaulois.
Et alors, en 1979, CBS réédite cette opération avec un nouvel enregistrement du programme, avec des arrangements complètement différents, mais ce sont les mêmes chansons finalement. Et cette fois, c'est Annie Cordy qui s'y colle, avec les petits écoliers chantants de Bondy et l'orchestre de Paul Piau.
Voyez ces beaux costumes, ces belles robes, ces beaux châteaux. Nous arrivons à l'époque de la Renaissance. Voilà François Ier. Son règne est marqué par une grande date. Premier a bien choisi d'aller se battre en Italie et de gagner à Marignan au lieu d'attendre 2 ou 3 ans. Car 1515,
Poitiers, Bayard, Gargan. Moi, que
1515, c'était pas tant. 1515, c'est Marignan.
Il y a bien eu cependant cet autre cas de l'an 800 où Charles empereur. Mais
1515, c'était pas tant. 1515, c'est Marignan. 1515, c'était pas tant. 1515, c'est Marignan. C'est Marignan. C'est Marignan.
Et maintenant, les enfants, nous allons passer de l'autre côté.
L'autre côté ? Quel autre côté ?
Mais l'autre côté du disque !
Gilles, bien que ce ne soit pas la discipline que vous enseignez, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de France revisitée à la sauce musicale?
Bah d'abord, c'était un album qui était très réussi et très drôle, puisqu'il y avait d'autres chansons qui étaient très bien, comme la chanson de Roland, Sonne, sonne de l'olifant. Et alors, l'album se terminait aussi par une chanson qui s'appelait Il ne faut pas tout mélanger. Et finalement, moi, c'est celle que j'ai le mieux retenue, avec des incohérences et des incongruités en termes de date. Et alors, ce qui était très étonnant, enfin moi j'étais vraiment surpris de découvrir que c'était la réplique exacte d'un album préexistant. Je crois que ça ne s'est jamais fait. Ce qui était fréquent, c'était des reprises à la même époque par des interprètes différents et des arrangements différents, mais un album complet refait à 10 ou 20 ans d'écart, c'est tout à fait inédit.
Ben voilà, donc c'est un ovni encore, mais c'est finalement ce répertoire pour enfants recèle plein de des choses inattendues.
Plein de surprises, oui.
Plein de surprises. Donc, on s'en doute, l'ambiance des classes est assez variable selon le degré d'attention des élèves et lorsqu'ils sont rêveurs, comme chez Prévert, cela donne des chansons très poétiques. Et j'ai envie d'évoquer l'émission télévisée des années 60, Le Manège Enchanté, qui a été produite à partir de 1964 par le réalisateur et scénariste Serge Danneau. Il s'agit d'une série d'animation quotidienne de 5 minutes qui a été diffusée à la télévision française durant plus de 500 épisodes. Et c'est sa propre fille, Patricia, surnommée Margot, qui enregistre les chansons des disques 45 tours qui accompagnent la diffusion de cette série. Et par exemple, cette petite voix qui évoque justement les enfants un peu trop rêveurs.
Pourquoi ?
Une petite voix.
Parfois.
Vient me parler tout bas.
Pourquoi ?
Quand je n'écoute pas.
Thank you.
n'écoutez-vous pas.
Et là,
vous coopérez vers quoi? On ne dort pas.
Allez, gole, là, là.
Fais la petite voix.
La voix de Margot, 1965, un disque qui prolonge en quelque sorte la mode du twist.
Oui, puis ce qui est amusant, c'est que c'est une chanson qui est proposée pour les enfants sur des rythmes contemporains, pas du tout très sage comme on a eu l'habitude d'en écouter auparavant, et qui reprend cette thématique de l'enfant qui rêvasse, qui existait déjà dans une chanson qui s'appelait « Une petite île », où un petit garçon regardait un point sur une carte de géographie et s'imaginait passer du temps sur cette île. Et moi, c'est quelque chose qui me séduit. Et puis alors, la voix du professeur qui crie et qui s'énerve, ça me rappelle un petit peu ma position à l'égard de mes élèves.
Évidemment, parce qu'on peut le dire, Gilles Annet, tous ces apprentissages ne seraient pas possibles sans l'engagement des enseignants dont vous faites partie. Et quelques chansons leur rendent des hommages bien mérités. La plus célèbre, c'est sans doute celle créée à l'automne 68 par Hugo Frey, « Adieu, monsieur le professeur », dont il a signé les paroles avec Vline Bugy. Et on peut dire qu'aujourd'hui, à 96 ans, Hugo Frey continue à chanter ce grand succès, en général accompagné sur scène par une chorale. Il l'a sorti désormais d'un préambule expliquant la différence qu'il fait entre l'instruction et l'éducation, le rôle de l'école étant d'abord d'instruire.
France Musique, tour de chant, Martin Penet.
Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. Classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie.
Gilles Annet, vous allez peut-être pouvoir résoudre une question que je me pose depuis un certain temps. Qui sont les voix d'enfants qu'on entend derrière la chanson d'Hugo Frey ?
Alors, les petites filles qui accompagnent Hugo Frey, ce sont Isabelle et Victoria Germain, qui ont également accompagné Pierre Perret sur La cage aux oiseaux, et qui sont les filles de Claude et d'Anne Germain. Alors Anne Germain, vous la connaissez forcément, tout d'abord parce qu'elle a accompagné toute la chanson française. C'était une choriste de studio qui a enregistré pour tous les labels. Elle était incontournable. Et puis, si vous avez mémorisé sa voix, c'est surtout parce qu'elle l'a prêtée à Catherine Deneuve à deux reprises, notamment dans Les Demoiselles de Rochefort et dans Peau d'âne, les deux films de Jacques Demy.
Ah oui, c'est un beau palmarès quand même.
Oui, oui, puis elles ont également travaillé en plus pour le cinéma. Isabelle a prêté sa voix à Marie pour les Aristochats. Et Victoria, elle, prête sa voix à Alice au Pays des Merveilles, qui a été réenregistrée dans les années 70.
Ce qui est sûr, c'est que cette thématique de l'hommage au professeur est à l'origine d'un vrai conte de fées dans l'histoire de la chanson. Je veux parler de la carrière de Chantal Goya, qui a pris un tournant spectaculaire en 1975 avec, vous le savez, Adieu les jolis foulards. Cette chanson qui a été inspirée en réalité par la grand-mère de Chantal qui était née en Martinique. Et elle a été écrite dans l'urgence, paroles et musique, par le mari de la chanteuse, Jean-Jacques Debout, pour répondre à un appel des Carpentiers, les fameux producteurs des shows télévisés, qui avaient besoin de remplacer Brigitte Bardot, alors souffrante, dans leur émission de télévision. Et les réactions des spectateurs ont été telles qu'il a fallu enregistrer la chanson dans la foulée, et cela a marqué le début de la nouvelle carrière de Chantal Goya, destinée aux enfants, avec le succès que l'on sait.
Oui, alors ce qui est amusant dans cette chanson, c'est que Chantal Goya fait la leçon à ses écoliers en leur disant « N'oubliez pas votre histoire, votre géographie », mais qu'elle se trompe, puisque à un moment, quand elle dit « On me renvoie vers la France, adieu la Martinique, c'est la France ». Et ça, elle semble un peu l'avoir oublié au moment de la chanson. Alors, je pense que c'est Jean-Jacques Debout qui a peut-être pas été très attentif à ce moment-là. Bon, il y a encore des gens qui disent que la Guyane est une île, si vous voulez, c'est un autre type d'erreur.
Alors, on va pouvoir tendre l'oreille.
Adieu mes petits élèves de la Martinique, je fais la classe aujourd'hui pour la dernière fois. On me renvoie vers la France, adieu la Martinique, mais tout là-bas je ne vous oublierai pas.
Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras, si ce n'est qu'un au revoir on se retrouvera.
J'emporterai dans mon cœur un peu de ce pays,
vous resterez dans nos cœurs mademoiselle aussi. Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras, si ce n'est qu'un au revoir on se retrouvera.
Votre histoire, votre géographie, souvenez-vous de l'histoire de Napoléon, qui épousa Joséphine, qui dans ce pays récita ses toutes premières leçons.
Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras, si ce n'est qu'un au revoir on se retrouvera.
J'emporterai dans mon cœur un peu de ce pays,
vous resterez dans nos cœurs mademoiselle.
Adieu mes enfants.
Voilà, Chantal Goya en 1975, et dans ce registre scolaire très inspirant, bon, nous ne pouvons pas tout diffuser aujourd'hui, mais il faut tout de même citer Le professeur est un rêveur de Bernard Sauvat en 73, ou encore Poil au tableau de Richard Gottener en 81, qui ont marqué une génération d'enfants. Alors, si les professeurs s'en vont, adieu monsieur le professeur, adieu les jolis madras, eh bien les élèves sont toujours là et les rentrées se succèdent. Et nous avons retrouvé plusieurs chansons inspirées par la vie à l'école, par exemple Annie Cordy en 75 qui annonce ce qui se passera à la rentrée, ou bien le chanteur Carlos, très aimé des enfants par sa bonhomie, qui décrit en 1972 une cantine dont les menus feraient frémir les responsables actuels de l'alimentation scolaire. N'est-ce pas, Gilles ?
Oui, bah, la cantine, c'est un moment de convivialité très important. Moi, je sais que pour moi, c'est très important de manger la même chose au même endroit, au même moment, avec tout le monde. Donc, ce qui était amusant à la cantine, c'est que c'est vrai qu'on n'appréciait pas tous les menus, où il y avait beaucoup souvent des épinards, de la langue de bœuf, des choux de Bruxelles, du chou rouge. On n'était pas très content, mais en même temps, c'était l'occasion de se retrouver et de critiquer ce qu'on mangeait. Et c'est un moment joyeux, la cantine.
Thank you.
Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de ricoler un bon coup. Je préfère manger à la cantine, même si le beurre c'est de la margarine. Tant pis s'il y a des cailloux dans les épinards, je préfère manger au réfectoire. On ne peut pas manger avec les doigts. C'est défendu de jouer aux billes avec les petits pois. Ce n'est pas marrant d'être à table. À la cantine, on se bagarre avec la confiture. On s'en met plein les mains, plein les habits, plein la figure. Et quand il y en a un qui rouspète, on lui fait manger son assiette. Je préfère manger à la...
La vie scolaire est bien sûr rythmée par les jours de congé, qu'il s'agisse des vacances, également présentes dans les chansons, ou bien du repos intra-hebdomadaire, autrefois le jeudi et aujourd'hui bien sûr le mercredi. Et on a retrouvé quelque chose d'amusant, c'est juste avant le passage du jeudi au mercredi comme jour de congé, à la rentrée scolaire 1972, et bien c'est Patrick Topalov qui a enregistré une chanson en forme de revendication enfantine sur l'utopique semaine des 4 jeudis, pleine de jours de loisirs.
Et oui, alors moi je suis très content qu'on entende Patrick Topalov et Carlos, parce que c'est pas les chanteurs qu'on a l'habitude d'entendre sur vos antennes, et je trouve qu'ils ont une place importante dans la chanson française qu'il faut pas négliger. C'est pas parce que c'est de la chanson drôle que c'est forcément mineur.
Pour la semaine.
Tous les matins faut se lever, se préparer, se dépêcher. Entre les devoirs, les leçons, les dictées, les récitations, on n'a plus le temps de s'amuser, ni même de lire un illustré. Pas à faire la grève 3 fois par mois contre l'augmentation du beurre ou pour la semaine des 40 heures. Je ne vois vraiment pas pourquoi l'État ne nous écouterait pas si nous décidions nous aussi de faire une grève sans merci.
Ce qui est amusant, c'est que l'expression « la semaine des 4 jeudis » est restée alors qu'on est passé au mercredi. Et ça, c'est la force de la chanson.
Moi, je dis toujours que la chanson, quand même, est un très bon reflet de son époque. Donc, c'est un témoignage. Je voudrais terminer cette émission comme nous l'avons commencé avec Anne Sylvestre. En 1979, elle enregistre avec des choristes appelés Les Bécasses et François Robert à la direction d'orchestre cette fabulette très poétique comme un appel à l'évasion, voire à l'école buissonnière.
En allant à l'école, j'ai rencontré le vent.
En allant à l'école, j'ai rencontré le vent.
Il m'a dit, tête folle, tu vas bien lentement. Si ton bonnet s'envole, tes idées sont dedans. J'irai pas à l'école, vole, vole, vole haut. J'irai pas à l'école si j'étais un oiseau.
J'irai pas à l'école, vole, vole, vole haut. J'irais pas à l'école si j'étais un oiseau.
En allant à l'école, j'ai rencontré la pluie.
En allant à l'école, j'ai rencontré la pluie.
Elle m'a dit, tête folle, mets-toi vite à l'abri. J'ai tracé des rigoles jusqu'au pied de ton lit. J'irais pas à l'école, vole, vole, vole haut. J'irais pas à l'école si j'étais un oiseau.
J'irais pas à l'école, vole, vole, vole haut. J'irais pas à l'école si j'étais un oiseau.
En allant à l'école, j'ai rencontré le froid.
En allant à l'école, j'ai rencontré le froid.
Il m'a dit, tête folle, tu souffles dans tes doigts. Fais donc des cabrioles, ça te réchauffera. J'irais pas à l'école, vole, vole, vole haut. J'irais pas à l'école si j'étais un oiseau.
J'irais pas à l'école, vole, vole, vole haut. J'irais pas à l'école si j'étais un oiseau.
En allant à l'école, j'ai rencontré l'oiseau.
En allant à l'école, j'ai rencontré l'oiseau.
Il m'a dit, tête folle, pour m'envoler si haut. Je l'ai apprise à l'école, je suis le grand amour. Oui, j'irais à l'école, vole, vole, vole haut. Oui, j'irais à l'école si j'étais un oiseau.
J'irais à l'école, vole, vole, vole haut. J'irais à l'école des oiseaux.
Merci beaucoup, Gilles Hannet, de nous avoir accompagnés dans l'exploration de ce répertoire de chansons enfantines d'auteurs. Je le précise, parce que c'est par opposition aux comptines anonyme et traditionnel que nous avions déjà exploré l'année dernière. Mais le répertoire des chansons d'auteurs pour enfants est encore très vaste. Et il faudrait bien sûr aussi évoquer les chanteurs qui s'en sont fait une spécialité, comme Anne Sylvestre, mais il y en a d'autres. Donc je pense que ça me donnera l'occasion de vous réinviter, si vous êtes d'accord.
Avec plaisir, Martin. À l'année prochaine, alors.
On va peut-être prendre rendez-vous. Bonne année à vous et à tous nos amis auditeurs. Tour de chant, une émission de Martin Pennet, avec le concours de Jeanne Lerche à la préparation, Éric Boisset au mixage et Noé Mignard à la réalisation.
France Musique.